Bonjour à tous et bienvenue sur The Free Agent. Aujourd'hui, petite interview. On l'avait eu en interview avant son départ pour l'Arizona. Et ben, on fait un petit point mi-parcours, on va dire, avec Mathias Lacombe. Comment tu vas, Mathias ?
Salut Charles, ça va super. Content d'être avec toi pour l'interview.
Top. Bah, c'est gentil d'avoir accepté, comme on s'était dit la première fois, d'avoir un petit suivi avec toi sur ta carrière et comment ça se passe maintenant que tu t'es exilé au pays du baseball, de savoir un petit peu comment ça se passe, quelles sont tes évolutions, etc. Première question, comment s'est passée l'acclimatation ? Parce que tu passes d'un environnement relativement familier à quelque chose de complètement nouveau, super loin, avec un décalage horaire de 9 heures, si je me trompe pas, avec l'Arizona. Comment ça s'est passé un petit peu cette acclimatation?
Alors là, du coup, ça fait 4 mois que j'y suis. C'était un peu compliqué au début, surtout, on va dire, au niveau de l'anglais, parce que bon, je parlais assez bien anglais, mais j'avais quand même pas mal de lacunes, donc pour les cours et même pour discuter avec un peu tout le monde dans mon équipe, mes coachs et tout ça. C'était pas super, super facile. Mais bon, petit à petit, je me suis bien amélioré. Donc, maintenant, ça va beaucoup mieux. Après, comme je dis souvent, à la personne qui me pose la question, mon équipe, mes coachs, tout le monde est vraiment super sympa avec moi et ils m'ont bien aidé à m'intégrer dans l'équipe et tout ça. Donc, ça aide vraiment. Et au final, je me suis intégré assez facilement. Donc,
Et est-ce que le côté Frenchie, le petit français qui arrive aux États-Unis, est-ce que ça a eu une incidence sur la manière dont les coachs ou même tes coéquipiers ont appréhendé aussi ton arrivée?
Forcément, vu que je suis étranger, ça me pose des questions et tout ça, forcément. Ils n'étaient pas tant surpris que ça parce qu'il y avait déjà un Français dans l'université qui est d'ailleurs toujours avec moi et qui s'appelle Ismaël Pontiac. Donc forcément, il leur avait déjà parlé aux plus anciens qui étaient l'année dernière avec lui. On avait déjà parlé un peu de la France, comment ça se passait au niveau la vie en France et le baseball en France et tout ça. Donc au final, ils me posaient quelques questions, mais pas plus que ça, quoi.
D'accord. Le fait qu'il y ait un Français avec toi a dû quand même pas mal t'aider au final.
Ouais, ça aide vraiment. Bah déjà rien que pour comment dire, le fait de pouvoir parler français un peu chaque jour, ça aide parce que c'est pas facile de parler anglais, donc de pouvoir parler un peu français chaque jour, ça aide, ça fait le bien, on va dire. Ça fait le bien. Il m'a beaucoup aidé. Je connaissais le campus, tout ça, il m'a beaucoup aidé.
Ouais, effectivement, ça a dû être plus facile pour toi pour t'intégrer là-bas. Quelles sont les différences notables que tu as vues, que ce soit dans la manière de s'entraîner, le niveau, bien entendu. La question appelle déjà sa réponse, bien entendu. Mais c'est quoi un petit peu les différences que tu as vues entre ta formation en France et ta formation là-bas aux États-Unis?
Alors, ce que je te dirais déjà, le niveau, évidemment, il est bien plus fort aux États-Unis, c'est vraiment impressionnant, quoi. Tu passes d'être un des meilleurs joueurs en France, on va dire, à être un mec lambda, moyen là-bas, quoi. Ça change vraiment. Mais je trouve que ça motive de voir des mecs qui sont.
C'est le but.
Ça motive. Et après, je pense qu'ils sont meilleurs du fait de l'entraînement, grâce à l'entraînement qui est vraiment différent. Les entraînements, ils sont beaucoup plus durs. En France, c'était un peu, comment dire, c'était on s'entraîne, on veut progresser, mais c'était assez léger. Alors que là, c'est vraiment, tu sens que les mecs veulent tous être professionnels, tu vois. Déjà, les entraînements sont très sérieux, très pro. Tu vas pas avoir des mecs qui vont dire, ouais, j'ai pas envie de m'entraîner aujourd'hui, ou j'ai la flemme, comme des fois ça peut arriver en France. Là, t'as vraiment que des mecs qui bossent à fond. Et c'est vraiment bien.
C'est quoi ta journée type? Raconte un petit peu la journée type du joueur baseball à ton niveau.
Alors, ma journée type, je vais t'en faire deux parce que j'ai eu deux parties, on va dire, en 4 mois. Les 2 premiers mois, je me levais à 5h du mat. À 5h30, j'allais courir cardio, des sprints, des trucs comme ça pendant une demi-heure jusqu'à 6h. À 6h, petit déj. Ensuite, j'essayais de retrouver un peu de sommeil jusqu'à mon premier cours qui était à 8h. Après, j'avais du coup un cours d'une heure de 8 à 9. Ensuite, j'essayais de redormir un peu pour un autre cours plus tard dans la matinée, pardon. Donc, j'avais mon cours à midi. Donc, je mangeais avant mon cours. Et ensuite, à 13h45, on commençait l'entraînement en baseball sur le terrain. Donc, entraînement baseball, lancer, etc. On avait de 13h45 jusqu'à 17h30 d'entraînement, 17h30.
Okay.
Ensuite, on avait une pause d'un peu plus d'une heure pour manger. Donc, on mangeait vraiment assez tôt, on mangeait à 18h, quoi. Et 18h30, muscu. Donc, on avait une heure de muscu quasiment tous les jours, sauf lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et le mercredi, on avait yoga, mais c'était à la même heure. Donc, on avait une heure de muscu à 18h30 jusqu'à 19h30. Et à 19h30, on avait une heure pour faire ses devoirs.
Ouais, pour faire tes devoirs.
On finissait à 20h30, on était libre. Donc, on allait dormir, en fait.
Ouais, je me doute, pour te lever à 5h du mat, il vaut peut-être mieux se coucher un petit peu tôt, quand même.
Et du coup, on a fait ça pendant 2 mois. Et après, on a arrêté les morning runs, du coup, c'est comme ça qu'on les appelle, les courses le matin. Donc, on pouvait dormir un peu le matin. Et ça fait qu'on se sentait vraiment mieux pendant la journée, quoi. Parce que sinon, on avait les yeux à moitié ouverts. Enfin, c'était compliqué.
J'imagine bien. C'est, les cours que tu suis là-bas, c'est du générique ou c'est déjà un petit peu orienté?
Non, là, j'ai choisi des cours, on va dire, basiques, des cours comme un lycéen en France, en fait. Je fais général, des maths, de l'anglais, et voilà, mais je me suis pas spécialisé dans quelque chose de précis.
Très bien. On va parler un peu baseball maintenant, quand même, parce que c'est quand même le but un petit peu de cette interview, qu'on parle un petit peu de toi. En France, tu lançais, tu étais starter, tu frappais aussi. Il y a eu un petit changement dans ton rôle au sein de ton équipe. Comment ça s'est présenté au final, ce changement, et est-ce que tu peux nous dire quel changement a été opéré?
Alors, quand je suis arrivé là-bas, j'étais dans l'optique de essayer de trouver ma place en tant que starter dans l'équipe. Et en fait, quand je suis arrivé, il y avait déjà 3 anciens qui étaient starters, on va dire, qui étaient restés de l'année dernière. Donc, ça faisait qu'une place, parce qu'on a 4 matchs par semaine, donc 4 starters. Et il y avait un mec qui est freshman comme moi, qui est meilleur que moi, on va dire, et qui a pris la place de starter. Du coup, c'était soit j'étais releveur et on va dire je restais un mec lambda, soit j'essayais de trouver ma place en tant que closer. Donc ça m'a vite intéressé, et puis mon coach il m'a mis en tant que closer une ou deux fois, et puis j'ai bien performé à ce moment-là, et en fait je me suis rendu compte que vraiment j'adorais closer les matchs, quoi. C'était beaucoup beaucoup plus de tension, de pression, et c'est quelque chose que j'adore. Donc je me suis juste comment dire, ça me galvanisait en fait pendant les matchs. J'étais juste à fond dès que j'étais closer, et ça a plu au coach. Du coup j'aurais probablement ma place de closer pour la saison.
Bah bravo déjà, parce que effectivement closer c'est pas forcément évident. T'arrives en fin de match, tout repose sur toi. Comment t'as vécu un petit peu ce changement? T'étais arrivé avec un plan A en te disant il faut que je devienne starter. Puis petit à petit d'être d'abord relégué en tant que releveur, puis d'avoir trouvé ce plan B. Comment comment ça s'est matérialisé pour toi? Est-ce que tu en as discuté avec les coachs? Est-ce que tu en as discuté avec ton père? Avec tes coéquipiers aussi? Comment mentalement t'es passé de ce plan A, et c'est ce que t'avais fait, ce que t'avais toujours fait jusqu'à présent, à ce nouveau plan pour pouvoir essayer de trouver ta place?
Quand je suis arrivé là-bas, on a eu des premiers matchs. C'est que le coach, il m'a testé en tant que starter. Donc j'étais super content. J'ai starté un ou deux matchs. Les premiers matchs où j'ai lancé, c'était en tant que starter. Et puis j'ai fait une contre-perf en fait. Et à partir de là, j'ai arrêté de starter. Comme c'était vraiment mon objectif, ça m'a mis un petit coup au moral de plus starter et d'être en tant que releveur. Tu sais pas trop quand tu lances. Quand tu lances vraiment une manche, alors qu'en starter, tu en lances quatre. Ça m'a mis un bon coup au moral. Et puis, sur un match plus tard, enfin, sur le troisième mois à peu près où j'étais là-bas, deuxième, troisième mois, il m'a testé en tant que closer et j'ai bien lancé. Au final, ça m'a énormément plu et j'ai tout de suite perdu l'envie d'être starter en fait. Dès que j'ai commencé à closer, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui étaient starters, qui étaient confiants dans ce poste-là, et ça m'a plus vraiment.
Tu t'es pas entêté.
Tout de suite, mon nouveau plan A, en fait. C'est même pas un plan B, c'est vraiment mon nouveau plan A. Et à partir de là, chaque fois que j'ai lancé, j'ai toujours closé et j'ai toujours bien lancé. Ça aide aussi à reprendre le moral de bien lancer.
Et pourquoi avoir arrêté la frappe?
Oh, ça c'est un sujet sensible. Non, j'ai arrêté la frappe parce que déjà là-bas, il m'a même pas demandé si je savais frapper ou pas. Et il m'a vu que j'étais lanceur.
T'es lanceur. Point barre. T'es catégorisé comme tel et on bouge pas quoi.
Et franchement, quand je vois les autres lanceurs, les monstres qu'on a dans l'équipe, j'ai pas envie de les affronter à la frappe. Ridiculiser, ça n'a aucun intérêt.
Ok, parce que bon, on a un très bon exemple en MLB avec Shohei Ohtani qui est capable de faire les deux, donc ça reste exceptionnel, mais ça pourrait donner envie, dans l'idée, ça pourrait donner envie peut-être à certains coachs d'avoir ce type de joueur aussi, même si la gestion, on l'a vu pour Ohtani, était beaucoup plus compliquée. Pour son temps de jeu et sa rotation. S'il y avait des points sur lesquels tu voudrais encore progresser pour la saison qui arrive, quels seraient-ils?
Alors déjà tous les aspects un peu basiques, lancer plus fort, lancer plus précis, mieux contrôler mes effets, etc. Mais je pense plus me tourner sur l'aspect mental dans ma progression maintenant. Ce qui m'intéresserait le plus, c'est vraiment être plus dominant sur le terrain, quoi. Parce que là, on a fait des matchs de préparation, donc il n'y avait pas trop d'enjeux. C'était un peu facile, on va dire, même si rien n'est facile. Mais il n'y avait pas beaucoup d'enjeux et les matchs, c'était pas vraiment des matchs serrés. On comptait à peine les points, enfin voilà. Mais quand la saison va commencer, les matchs vont être vraiment plus compliqués avec des équipes en face qui vont tout donner pour gagner. Donc l'aspect mental et tenir le choc sur toute la saison, c'est vraiment sur quoi j'aimerais progresser et être performant pour la saison.
Aujourd'hui, ta balle la plus rapide que tu aies lancée, elle est à combien?
La plus rapide que j'ai lancée, c'est cet été, 92 miles j'ai lancé. Et après, j'ai pas fait du tout de radar depuis les 4 mois que je suis, donc je sais pas combien je lance. Donc je pense que j'ai peut-être touché un peu plus, mais je saurais pas te dire combien.
D'accord. Dans les infrastructures, il n'y a pas de moyen pendant vos matchs de pouvoir mesurer la vitesse de vos lancers, que ce soit les starters ou même toi, enfin après, quelques lanceurs que ce soit.
Bon, on a des radars, comme mon père il me dit, mais le coach. Ça intéresse pas en fait. Il veut juste voir le résultat. Que je lance 100 miles et que je me fasse frapper, ça l'intéresse pas. Lui, il veut juste voir comment je lance. Donc, la vitesse, en fait, ça l'intéresse pas plus que ça.
D'accord.
Donc, il prend pas le radar.
Dans ton arsenal de lancer, est-ce qu'il y en a des nouveaux que tu as ajoutés depuis ton arrivée?
Ouais. Quand je suis arrivé là-bas, je lançais une droite de couture. Je lance pas de droite 4 coutures. Je lançais une slider et une split finger. Et en fait, en arrivant là-bas, le coach, il m'a dit qu'il fallait que j'apprenne une change-up parce que c'était essentiel. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur une change-up. Et vu que le coach, il avait jamais eu de lanceur qui lançait une split, j'ai un peu délaissé ma split pour la change-up. Donc je la lance toujours, mais je l'ai pas vraiment améliorée, quoi.
Donc comment on apprend si tu peux expliquer à tous ceux qui connaissent pas forcément le baseball ou même ceux qui s'y intéressent, comment on apprend un nouveau lancer? Est-ce qu'on fait c'est que à l'entraînement on fait 150 fois le même geste? Est-ce qu'il y a des techniques particulières ou c'est juste je prends la balle, on m'explique comment positionner mes doigts et je lance pendant une heure le même lancer?
C'est un peu des deux. En fait, là, le coach m'a expliqué comment tenir ma balle, etc. Après, il m'a donné des exemples. Par exemple, pour la change-up, tu dois la tenir d'une certaine façon. Et ensuite, tu dois la lancer comme ta droite. C'est-à-dire, tu dois la lancer dans l'esprit de la lancer le plus fort possible. Et avec le même geste que ta droite. Mais après, c'est des sensations que seul moi, je peux avoir avec le lancer. Lui, il me donne les grandes lignes, comment la lancer. Ouais. Et ensuite, de lancer à l'entraînement et d'essayer, tiens, ça fonctionne, ça fonctionne un peu moins. Si je fais ça, la balle, elle fait ça. Donc, je vais aller plus me diriger dans cette optique-là. Et voilà. Après, le coach, il me dit, non, ça, faut pas que tu le fasses, ou ça, faut que tu le fasses. Mais lui, après, il est pas à ma place, il a pas les mêmes sensations que moi quand je lance la balle. Donc,
voilà. Oui, logique, effectivement. Du coup, beaucoup d'entraînement. Vous, t'es accompagné par combien d'entraîneurs? Est-ce qu'il y a un seul? Combien ils sont pour t'aider au quotidien?
On a deux coachs. Donc, on a le head coach, le coach principal. Et ensuite, on a un assistant coach qui nous fait absolument tous les entraînements. Il nous fait faire la muscu, il nous fait faire la course le matin à 5 heures. Il est présent à tous les entraînements baseball. Et en fait, il fait des exercices parallèles, on va dire. Le coach principal, il va prendre un grand groupe et l'assistant coach, il va prendre un plus petit groupe pour travailler plus spécifique avec certaines personnes. Donc, on n'a que deux coachs.
D'accord, ok. Ça va. Là, c'est les vacances. On est le 28 décembre. C'est quoi les prochaines étapes maintenant pour toi?
Alors, je vais repartir là-bas le 9 janvier, comme je t'ai dit. En arrivant là-bas, on a à peu près trois semaines, un mois avant les premiers matchs. On va faire des matchs entre nous, bien sûr, etc. On a trois semaines, un mois pour revenir à notre meilleur niveau. Ensuite, on va avoir quelques petits matchs de préparation contre d'autres équipes. Et après, on va commencer la saison. Et donc on commence la saison début mi-février. On a 56 matchs à faire à hauteur de 4 matchs par semaine.
D'accord. Ok. Ça fait un sacré programme. Pendant combien de temps c'est aussi pour resituer pour ceux qui regardent l'interview et qui l'écouteront. Est-ce que tu peux nous resituer à quel niveau au final tu te situes sur l'échelle dans cette immense pagaille qui est le baseball en high school et en universitaire?
Alors, c'est pas facile à expliquer. Mais il y a deux systèmes universitaires aux États-Unis, un système sur 4 ans et un système sur 2 ans. Moi, je suis dans le système universitaire sur 2 ans. Je suis en college. Et donc, je suis dans la meilleure division. Je suis en division 1 dans le système sur 2 ans.
D'accord.
Et après, mon but, on va dire, c'est de faire 2 ans dans ce système-là et ensuite de rejoindre le système sur 4 ans à partir de la 3e année. Et là, le niveau est meilleur puisque y a des mecs qui ont 2 ans de plus que moi ou 3 ans de plus que moi actuellement. Voilà.
D'accord. Ok. On a beaucoup parlé que ce soit ton université, les États-Unis. Quid de l'équipe de France? Est-ce que c'est un frein pour toi le fait d'être là-bas pour pouvoir de nouveau revêtir le maillot de l'équipe de France?
Alors, je vais te répondre oui et non. Ça serait un frein si les compétitions avec l'équipe de France, par exemple, juste championnat d'Europe, etc., c'était en même temps que la saison aux États-Unis, parce que là, je pourrais probablement pas jouer avec l'équipe de France, mon coach ne voudrait pas. Mais heureusement, les compétitions comme ça, elles sont souvent l'été, en fait. Donc, la prochaine compétition championnat d'Europe, normalement, je pourrais la faire. Juste les stages de préparation, les petits entraînements qu'il y a, les regroupements pour l'équipe de France, je ne pourrais pas les faire vu que je serai encore en saison là-bas.
Est-ce que ça... est-ce que ton université va mettre des freins à ces participations? Parce qu'on sait aux États-Unis que ce soit dans tous les sports majeurs, généralement les franchises etc. n'aiment pas trop que leurs joueurs partent en sélection et souvent mettent des freins tout ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce que tout simplement vous avez eu la conversation déjà avec tes coachs?
Oui, j'ai beaucoup discuté avec mon coach de l'équipe de France et lui, on va dire, tant que c'est pas pendant sa saison où c'est qu'il a besoin de moi pour l'équipe, je pense que ça, enfin, il m'a dit, je sais pas que je pense, c'est que j'en suis sûr, il m'a dit que valait mieux que je joue à un bon niveau pendant que je suis pas là plutôt que je fasse rien chez moi. Donc il va pas mettre de frein sur ça et à chaque fois que je vais pouvoir jouer en équipe de France ou n'importe quel autre match, je pourrais le faire et pas me mettre de frein. D'ailleurs, en septembre, j'ai fait les championnats d'Europe U23, moins de 23 ans. Ouais. Et fin août, pardon. Oui, c'est fin août. Et ça fait que je suis arrivé 2 semaines en retard à l'université. Il y en avait qui étaient... Enfin, ça faisait 2 semaines que les entraînements et les cours avaient commencé. Donc, je suis arrivé 2 semaines plus tard à cause de ça.
Bonne nouvelle du coup si tu peux revenir en équipe de France sans que ça pose trop de problèmes, effectivement, parce que souvent ce qui est craint c'est le risque des blessures etc. Mais ton coach voit plutôt l'aspect entraînement, donc c'est plutôt plutôt forcément une bonne chose. Pour le mot de la fin, parler de la MLB quand même un petit peu. Je sais que t'es fan des Cardinals. C'est pas eux qui ont été au bout, c'est les Braves. Quel est le joueur pendant les playoffs et sur la saison 2021 au final qui t'a peut-être le plus inspiré? Je sais pas si c'est un lanceur, très bien. Si c'est un autre joueur, quel est celui qui t'a le plus impressionné?
Alors là, je saurais pas te dire. J'ai regardé pas mal de matchs, mais je les ai pas tous regardés. J'avoue, j'ai pas beaucoup suivi.
Non, il y en a beaucoup. Il y en a quand même beaucoup.
j'ai vraiment pas regardé tous les matchs, donc je saurais pas te dire.
Bon. C'est pas grave, tant pis. Eh ben écoute, Mathias, merci beaucoup pour cette interview. On a appris encore appris pas mal de choses. On te souhaite bien entendu tout le meilleur pour la saison qui va débuter l'année prochaine. On suivra bien entendu, on continuera de faire un petit point régulier sur ta situation là-bas. D'ailleurs, on essaiera de se caler un petit rendez-vous quand tu seras directement là-bas. Ça pourrait être sympa. Et voilà. Et ben écoute, je te souhaite bien entendu tout le meilleur. Et puis du coup à très vite pour faire un petit point.
Yes, merci de m'avoir invité pour l'interview. Et puis bonne continuation à toi aussi. Et puis à la prochaine.
À la prochaine.